Et maintenant, on va retrouver Mathieu pour la chronique des apatrides anonymes.
Bonjour Rémi, bonjour tout le monde. Donc oui, après Marie-Ève il y a deux semaines, on continue à couvrir l'actualité en termes d'immigration, sécurité nationale, racisme et frontières. Donc un peu inévitable de parler de ce qui se passe aux États-Unis, ses conséquences au Canada. Je vais vous parler de quelques sujets dans les prochaines minutes. Torture, prison secrète de la CIA, c'était dans un des une des intentions du nouveau président américain, donc de remettre ça au goût du jour, style époque de George W. Bush. Donc, en même temps, ça sonnait un peu drôle au Canada parce qu'il y a 10 ans, la semaine passée, le gouvernement fédéral offrait des excuses à Maher Arar, qui avait été torturé en Syrie avec la complicité des États-Unis et du Canada. Donc, on se rappellera qu'il y aura eu une grosse compensation de 11,5 millions de dollars aussi après une longue commission présidée par le juge O'Connor. Donc, on avait reconnu à l'époque que la GRC avait eu son rôle à jouer par le transfert d'informations erronées, fausses, aux Américains, entre autres, et qu'on s'en est servi comme modèle pour faire part aux gens qui pouvaient, d'une façon ou d'une autre, constituer une menace à la sécurité nationale. Et ce qu'on se rend compte, 10 ans plus tard, c'est que les recommandations de la commission O'Connor n'ont pas été mises en application. Par exemple, que l'information ne devait pas être partagée avec des pays qui pratiquaient la torture ou à risque de pratiquer la torture, et aussi que la GRC devait faire l'objet d'un mécanisme d'examen indépendant par un comité indépendant, justement. Donc, on sait que depuis ce temps-là, il y a une directive ministérielle en 2010, on en a souvent parlé à la chronique, qui a un peu formalisé ou légalisé cette pratique de torture qui est possible en cas de danger pour la sécurité nationale. Donc, on tourne autour de ça. Le gouvernement actuel veut pas changer vraiment la loi là-dessus. Il dit qu'il va avoir, entre autres, un comité parlementaire qui va étudier les organismes de sécurité nationale comme le SCRS, mais on parle pas d'un comité indépendant. Et on parle pas non plus de vraiment être très, très clair sur les questions de la torture. Donc, on sait aussi que 3 autres hommes d'origine arabo-musulmane qui ont été torturés aussi en Syrie, qui eux sont toujours en train de faire des démarches pour être compensés et avoir des excuses. Et le gouvernement là-dessus ne facilite pas leur cas, va en appel à chaque fois qu'ils gagnent quelque chose. Donc, ça serait bien de régler ce cas-là comme exemple. C'est ce que beaucoup d'organismes demandent. Donc, ben voilà ce qu'on est rendu au niveau de la question de la torture au Canada. Donc, avec ce qui se passe aux États-Unis, on peut craindre que ça va continuer dans ce sens-là et que les organismes canadiens, malgré les promesses et les projets de loi, ne seront pas plus encadrés. Il y a eu le fameux décret sur les 7 pays dont on a beaucoup parlé. Je ne parlerai pas de ceux-là parce que beaucoup de gens en parlent déjà. Mais 2 autres aussi sur la déportation plus active des personnes dites irrégulières qui ont un casier judiciaire aux États-Unis et aussi les coupures de financement fédéral aux villes sanctuaires aux États-Unis. Dans ce contexte-là, évidemment, aussi, il y a une recrudescence des expulsions. Depuis quelques semaines, on a vu ça en fin de semaine, entre autres, à Los Angeles. Et donc, on envoie aussi automatiquement les demandeurs d'asile vers des centres de détention. Donc, ce qui se passe au Canada là-dessus, il y a des groupes comme Solidarité sans frontières qui font pression pour que Montréal, par exemple, devienne une ville sanctuaire. On sait qu'il y a déjà 4 villes canadiennes, Vancouver, Toronto, Hamilton et London, qui le sont. Et c'était assez drôle de voir cette semaine le maire Coderre dire « Oui, ça serait une bonne idée qu'on puisse devenir une ville sanctuaire. » Mais après qu'il ait dit, il a envoyé un courriel ou quelque chose à Trump en disant que Montréal était déjà une ville sanctuaire, ce qui n'est pas le cas. Il y a une campagne qui s'appelle Cité sans frontières qui roule depuis plusieurs années, qui demande ça, mais c'est pas du tout le cas à Montréal. Donc, à suivre de ce côté-là. Les médias aussi ont fait beaucoup de reportages sur les entrées de personnes dites irrégulières à pied en prenant des États-Unis qui arrivaient au Manitoba ou en Estrie au Québec. Donc, on a fait beaucoup de reportages là-dessus. On sait que c'est pas nouveau. Il y a toujours des gens qui ont fait ça. Mais là, vraiment, on axe là-dessus parce qu'il y a la situation aux États-Unis. Et tout ça dans un contexte où beaucoup de gens remettent en question la fameuse entente sur les tiers pays sûrs qui apparaît de plus en plus absurde et nuisible dans le contexte actuel, qui est à la base un déni de droit. Pour les gens qui savent peut-être pas qu'est-ce que c'est exactement, c'est une entente qui est entrée en vigueur avec les États-Unis en 2004, dans la foulée de septembre 2001, qui stipule que l'asile sera automatiquement refusé à toute personne en provenance des États-Unis, qui est considérée comme un pays sûr. Donc, la personne qui est passée par les États-Unis, qui a demandé le statut de réfugié, peut pas le demander au Canada. Donc, ça force les gens à rentrer de façon dite irrégulière, parce que quand tu rentres de façon dite irrégulière, t'as le droit de faire une demande d'asile, même si t'en as fait une aux États-Unis. Donc, c'est un peu absurde comme situation. Et bon, beaucoup de groupes demandent que ça soit aboli, cette entente-là, parce que finalement, ça fonctionne pas. Ça fait juste pousser les gens à prendre des risques inutiles. Et ça fait que les gens se servent de cette façon-là de rentrer pour venir ici, mais prennent beaucoup de risques pour eux, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Peut-être dire aussi que depuis en décembre dernier, les services frontaliers canadiens recensent plus de 300 personnes sont entrées de cette façon-là à pied, donc en dehors des postes frontières au Québec. C'était 20 en décembre 2015 officiellement, donc l'augmentation est très, très forte. Et depuis le 1er avril 2016, on parle de 1000 personnes qui ont franchi la frontière canadienne au Québec seulement de cette façon-là. Donc, il y a vraiment une augmentation assez impressionnante. C'est sûrement plus dans les faits parce qu'il y a des gens qui sont pas recensés, évidemment. Donc, par exemple, le Conseil canadien des réfugiés réclame le retrait de cette entente qui va à l'encontre des droits des réfugiés. Et beaucoup de gens appelle le nouveau ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, lui-même réfugié, pour qu'il se penche sur cette question-là et apporte des changements, parce que c'est vraiment rendu ridicule. D'ailleurs, il y a 200 professeurs de droit canadien de différentes universités qui ont demandé de suspendre pour 3 mois cette entente-là. 3 mois, ça va avec le décret là sur les 7 pays musulmans. Donc, on parle ici de que les États-Unis ne sont plus jugés comme un pays sûr en raison de ce qui se passe là-bas. Donc, on demande à ce que cette fameuse entente du tiers pays sûr ne s'applique plus pour les raisons que je vous ai dit tantôt. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais il y a de la pression de plus en plus pour qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Et aussi, on a entendu parler dans les médias aussi des gens qui peuvent pas rentrer aux États-Unis, qui sont canadiens, d'origine arabo-musulmane en général. Donc, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de cas de personnes qui n'ont pas pu rentrer aux États-Unis, même si sont citoyens canadiens. On a entendu parler du cas de Yassine Hébert de Sherbrooke, qui est un athlète, qui n'a pas pu rentrer. Il y a eu des reportages à la télévision. Ça aussi, on sait que c'est pas nouveau pour les gens qui s'intéressent à la question. Il y a toujours eu des gens de refuser à la frontière américaine pour toutes sortes de raisons farfelues ou discriminatoires. Mais là, on voit vraiment qu'une accélération. Donc, le pouvoir discrétionnaire des douaniers, entre autres, s'applique décret suspendu par les tribunaux ou pas. Donc, voilà, on se retrouve un peu dans cette situation-là. Sinon, nouvelle qui est sortie hier, projet de loi C-23, toujours au fédéral, ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodell, qui, une mesure qui enchâsserait dans la loi une entente de collaboration concernant le prix des douanements entre les États-Unis et le Canada, une entente qui avait été conclue entre Harper et Obama en 2015. Donc, on parle ici en résumé, c'est que les gens qui passe par des services frontaliers américains en sol canadien avant de prendre l'avion pour les États-Unis, pourrait être bloqué plus facilement vers les États-Unis. Et entre autres, on dit qu'actuellement, un Canadien qui passe par ces services frontaliers américains-là, qui aime pas la façon dont il a été interrogé, qui aime pas le genre de questions qui se fait poser, qui aime pas l'attitude des douaniers, peut juste dire, bon, ben c'est beau, je refuse d'aller aux États-Unis, puis je m'en retourne chez nous. Et là, dans le projet de loi, c'est que les gens ne pourraient plus interrompre la séance d'interrogation à leur choix. Ils pourraient être détenus, forcés de répondre aux questions, s'identifier et expliquer pourquoi ils veulent plus aller aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme au niveau du service de prix des douanements dans les aéroports canadiens. Et une fouille à nu pourrait être faite par un agent américain. Actuellement, ça peut être par un agent canadien dans un aéroport. Un agent américain peut y assister actuellement. Mais là, dans la nouvelle loi, s'il n'y a pas d'agent canadien qui est disponible ou qui veut le faire, l'agent américain pourrait le faire. Là, on parle toujours en sol canadien. Donc, c'est assez particulier. Et peut-être chose encore plus importante, c'est que ça octroierait, ce projet de loi-là, le droit à un agent des services frontaliers du Canada, à l'agence des services frontaliers du Canada, qui est en poste dans un aéroport américain, d'empêcher un résident canadien de revenir au Canada pour des raisons, encore une fois, de sécurité nationale qui seraient arbitraires. Donc, ça serait assez grave. On pourrait avoir le même cas, donc, de ce qui arrive aux États-Unis, d'Américains d'origine de certains pays qui ne pourraient pas revenir dans leur pays aux États-Unis. Donc, projet de loi C-23, je n'étais pas du tout au courant. J'ai lu ça hier dans les médias. Et voilà, donc c'est dans ce contexte toujours aussi joyeux. Peut-être vous parler rapidement du nouveau ministre canadien de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Il a été nommé au début de janvier dans un remaniement ministériel. Il s'appelle Ahmed Hussein, je l'ai nommé tantôt, arrivé à l'âge de 16 ans et d'origine somalienne, député de Toronto. On l'a pas vu beaucoup depuis tout ce qui se passe aux États-Unis avec les frontières. Il est assez tranquille. Je sais pas trop s'il est en train d'apprendre ce qu'il y a à faire ou on le cache un peu. Mais lui prétend que son expérience personnelle d'immigrant, d'avocat en droit de l'immigration et militant au sein de la communauté somalienne est un plus pour lui. Il était entre autres président du Congrès somalien canadien. Mais finalement, on sait pas trop où il se loge au niveau de ses positions. Bon, c'est sûr que c'est les mêmes que le gouvernement Trudeau. Mais il y a une petite petit élément qui a été soulevé par les médias, c'est que en 2012, il avait été nommé par Harper pour siéger une table ronde sur la sécurité qui avait mené ultimement la loi C-51, la fameuse loi antiterroriste adoptée en 2015, et qu'Ahmed Hussein avait des positions assez conservatrices au niveau de la déportation des étrangers qui ont commis certains crimes. Donc, à voir dans la pratique, mais pour l'instant, c'est pas très, très rassurant au niveau de ses positions. Puis comme je vous dis, on le voit à peu près nulle part. Donc, c'est quelqu'un qui est assez discret, un peu caché. Donc, à suivre au niveau de ses positions et de ses agissements. Changement de sujet complètement. Marie-Ève vous a parlé il y a deux semaines d'un agriculteur français qui s'appelle Cédric Héroux, qui était poursuivi. Donc, pour avoir facilité le transport d'étrangers entre l'Italie et la France et les avoir hébergés, nourris et donc les avoir protégés. C'est dans la vallée de la Roya, donc au sud-est de la France, près de l'Italie. Et donc, il y a eu son jugement, sa sentence le 10 février. Il a été condamné finalement à 3 000 €, mais avec sursis. Donc, il n'aura pas à les payer. Donc, il a été reconnu coupable de l'aide apportée aux étrangers pris en charge en Italie, mais il a été acquitté sur la question de l'ouverture d'un camp qui a accueilli 57 migrants dans un bâtiment de la SNCF près de son terrain. Donc, quand même une victoire assez intéressante pour lui. Ça peut faire jurisprudence aussi en France parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de procès pour ce qu'on appelle le délit de solidarité actuellement. Donc, des gens qui aident des personnes en danger ou des personnes qui ont besoin d'aide puis qui se font pénaliser après parce que les personnes sont en situation irrégulière. Donc, ben voilà, fait que là-dessus, il a été acquitté pour un des deux chefs et bon, son amende est avec sursis. Il y aura pas d'appel dans ce dossier-là. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut poursuivre les autorités françaises pour non-respect des protocoles de réadmission, donc pour non-assistance en personne en danger, pour pas faire finalement son travail, pour pas prendre leur responsabilité. On parle ici, entre autres, de réfugiés mineurs qui sont seuls et qui ont besoin souvent de protection et d'aide. Donc, lui, il va continuer le combat, il va continuer à agir pour faire ce qu'il faisait déjà, transporter des gens, les héberger, les aider, les protéger, mais aussi va pour faire des procédures judiciaires pour poursuivre un peu le gouvernement et l'obliger à avoir ses responsabilités. Parce qu'il faut savoir, dans ce dossier-là, dans ce procès-là, M. Héroux a été quand même pas mal insulté, s'est fait traiter de bandit, s'est fait traiter de criminel, et beaucoup de politiciens de droite, entre autres, mais de gauche aussi, qui ont dit que c'était un irresponsable, qui contribuait à faire entrer des gens dangereux en sol français. Donc, ça joue assez dur. C'était un procès un peu emblématique, ça se passait à Nice, donc le procès. Et peut-être vous dire que, justement, les fameuses questions de protocole de réadmission, on a su aussi la semaine passée qu'il y avait beaucoup de renvois massifs et systématiques de migrants en Italie sans qu'il ait pu faire une demande d'asile, entre autres beaucoup de mineurs isolés qui appellent en France. Donc, dans ce contexte-là, et il y a aussi d'autres procès, donc une militante qui est attendue en avril en procès, 4 autres en mai. Il y a un prof dont Marie-Ève vous avait parlé aussi, Pierre-Alain Manoni, qui attend une date pour son procès en appel. Lui, lui et les autres dont je vous ai parlé risquent 5 ans de prison, 30 000 € d'amende pour avoir transporté des gens, donc d'un endroit à l'autre et les avoir protégés. Donc, c'est ça un peu la situation actuellement. Et donc, c'est quand même intéressant à suivre parce qu'il y a de plus en plus de pays qui appliquent des mesures comme ça pour pénaliser les gens qui aident les migrants ou les réfugiés qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de protection. Donc, en France, c'est quand même un petit peu à l'avant-plan là-dessus. Les mesures répressives sont assez fortes. Donc, voilà, je voulais faire un suivi de la chronique de Marie-Ève il y a deux semaines sur ce monsieur Héroux, qui est un petit, qui est un monsieur très ordinaire, mais qui est un petit héros ordinaire en France actuellement. Donc, voilà, c'était la chronique des apatrides